J'appelle à présent à me rejoindre Valeria Manera, qui est docteur en psychologie et qui va effectivement nous parler de nouvelles technologies. Vous allez voir que c'est très très loin d'être des gadgets dans l'usage qu'on peut en faire dans cette maladie.
Oui. Merci beaucoup pour être très contente d'être ici. Donc, mathématiques, en fait, c'est plutôt sur l'avancée sur l'utilisation des nouvelles technologies. Donc, quoi de neuf ? Et je me suis posé moi-même la question, et je pense qu'une des choses qui a accéléré plus rapidement lors des dernières années, c'est l'utilisation de la télémédecine. Donc, vous savez, la consultation à distance avec des nouvelles technologies. Alors, ça existe depuis longtemps, ça fait plus de 30 ans qu'on a les outils pour faire de la télémédecine, mais c'est uniquement dans le contexte de la crise Covid qu'on a commencé à l'utiliser d'une manière vraiment plus importante. Et contrairement à certaines des habitudes qu'on avait pendant la pandémie qu'on a perdu, je pense que la télémédecine va rester quand même un outil qu'on va continuer à utiliser parce que ça aide à aller à la rencontre d'un problème que c'est les déserts médicaux, surtout dans les régions de montagne isolées où on a du mal à accéder à des professionnels formés, surtout dans le domaine de la santé mentale. Et donc, je pense que ça va continuer à rester d'actualité même sur la suite. Alors, une question qu'on peut se poser, est-ce que c'est la télémédecine est utilisable aussi chez les seniors, chez les patients avec maladie d'Alzheimer et pathologies apparentées? Alors, ils se sont posé la question à plusieurs. Donc, il y a eu, par exemple, aux États-Unis, en 2020, une recherche sur plus de 2000 personnes qui a montré que si avant la pandémie, il y avait que les 5% des seniors qui n'avaient jamais essayé à faire une téléconsultation, eh bien, après la pandémie et pendant, presque les 25% des patients ont essayé une téléconsultation. Donc, on est déjà là. En fait, une personne sur quatre a déjà essayé, des seniors, la télémédecine. Et nous, dans notre petit, on avait fait une petite enquête sur une centaine de personnes niçoises. Eh bien, on avait trouvé que quand même, pratiquement la moitié, 46%, avaient déjà essayé une consultation en télémédecine. La plupart avec une généraliste, mais il y avait aussi 31% des spécialistes et 14% des paramédicaux. Donc, c'est déjà une réalité, en fait. Bien sûr, il y a des avantages et des désavantages par rapport à une consultation classique. Les avantages, l'avantage principal qu'on connaît tous, c'est que ça limite les déplacements. Donc, c'est un gain en termes de temps, des coûts et aussi une sécurité accrue. On a moins de chances de choper la grippe, par exemple, si on fait une téléconsultation. Et ça reste très utile pour les personnes qui habitent loin des centres cliniques et dans des zones, par exemple, isolées, mais aussi avec des personnes en ville avec une mobilité réduite. Ça facilite les consultations. Ça nous aide aussi à consulter des spécialistes qui, peut-être, sont dehors de notre région. Donc, ça nous permet d'aller plus large si on a besoin d'un deuxième avis, par exemple, ou d'aller voir un spécialiste qui n'est pas dans la région. Et je pense que ça a changé un peu nos habitudes aussi de vie en termes de santé. On peut maintenant partir, je peux aller en Italie voir ma famille et faire une consultation qui était prévue en téléconsultation. Donc, ça facilite la vie pour des gens qui sont de plus en plus mobiles, même pour des raisons de plaisir ou de travail. Et dans les contextes spécifiques des patients avec pathologies comme l'Alzheimer ou pathologies apparentées, ça peut aussi être intéressant parce que de les sortir parfois de leur zone de confort, ça peut les stresser, ça peut leur donner de l'inconfort, alors que de les voir dans un contexte qu'ils connaissent, peut-être ça évite du stress inutile. Et les voir dans un contexte de vie quotidienne, ça peut aider les cliniciens aussi à mieux repérer les contextes de vie naturels et donc à mieux orienter, par exemple, la prise en charge. Et bien sûr, il y a plein d'inconvénients aussi. Pas tout le monde a l'équipement qu'il faut. La connexion Internet, elle n'est pas bonne partout. Donc, ça, il faut les prendre en compte quand même. Même quand il y a l'équipement, il y a souvent des problèmes techniques. Donc, on commence la consultation, ça coupe. Internet n'est pas fiable le jour J. Donc, voilà. Ça reste quand même pas évident pour tous. Et pour cette même raison, pour certaines personnes, surtout des seniors, ils sont pas forcément tous à l'aise à la nouvelle technologie, ça peut être stressant pour l'outil en soi-même. On a aussi plus de sources de distraction, les téléphones qui sonnent, les chats qui sautent sur l'ordinateur, les voisins qui sonnent à la porte. Donc, forcément, on est chez nous et donc on a toutes les distractions du cas. Ce n'est pas possible de tout faire, donc on ne va pas faire une IRM justement à la maison. Et il y a un gros challenge pour le futur, c'est la sécurité de données. On fait une consultation, on partage des données sensibles. Donc, il faut s'assurer d'avoir les bons outils qui respectent les règles de privacy et sécurité aussi. Et il faut bien avoir en tête, moi que je suis psychologue, c'est que parfois, c'est plus difficile, si on rencontre une nouvelle personne, d'établir une bonne alliance thérapeutique. Parce que voilà, les regards dans les yeux, il est moins naturel, on ne voit pas tous les corps, on voit juste une partie. Donc, c'est une chose à prendre en compte. Alors, cela dit, quel est le rôle de chercheur dans cette démarche? On a vu qu'elle est déjà là, la télémédecine, on l'utilise déjà. Donc, qu'est-ce que les chercheurs peuvent apporter? Alors, à mon avis, il y a trois choses. La première chose, on peut aider à établir des recommandations pour les bons usages de la télémédecine. On peut contribuer à développer des outils là où on voit qu'il y a des limites sur les outils actuels. Et on peut tester ces outils pour voir s'ils sont effectivement efficaces ou pas. Donc, par rapport au premier point, établir des recommandations, qu'est-ce qu'on fait et s'appuyer toujours, ça c'est une démarche qu'on utilise pour toutes les recommandations, sur deux grands volets. Alors, d'un côté, on consulte les experts, c'est-à-dire que déjà on va lire tout ce qui a été publié par nos collègues sur la thématique et on va vraiment les réunir, on va organiser des consensus d'experts, on va demander à tout le monde qu'est-ce qu'ils pensent et essayer d'arriver à un consensus pour donner des recommandations. Et l'autre volet de la médaille, qui est aussi important que consulter les experts, c'est consulter les experts de leur pathologie, c'est-à-dire les patients et leurs aidants. Et là aussi, on organise des focus groups, des groupes de discussion avec les patients pour leur demander leur avis. Qu'est-ce que vous en pensez en réalité? Est-ce que c'est utile? Est-ce que vous l'utiliserez en pratique ou pas? Et après qu'on a discuté un peu avec eux pour récolter leurs besoins, on leur montre en Living Lab comment ça marche, on leur demande est-ce que ça vous dirait de l'utiliser ou pas. Là, vous voyez exactement comment ça marche. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, avec les deux volets, experts et patients, on a fait plusieurs recommandations sur notre centre de recherche sur, effectivement, comment mieux utiliser la télémédecine. Donc, on a fait des recommandations pour comment faire avant d'arriver à la téléconsultation, déjà pour qui. Donc, qu'est-ce que tous les experts ils étaient d'accord à dire, c'est que ce n'est pas trop adapté avec des patients avec des troubles plus sévères. Donc, il faut aller, sauf s'il y a un aidant, il faut aller plutôt sur des troubles moins sévères qui impactent moins l'autonomie de la personne. Et ça semble une évidence, mais c'est clair qu'il faut aller sur des personnes qui ont l'équipement pour permettre une téléconsultation, mais pas forcément chez eux, comme on imagine toujours. S'il y a un voisin avec lequel on est très ami, qui a une connexion Internet et tous les matériels, ou la pharmacie du village, ou la mairie qui nous met à disposition une salle, eh bien, ça peut aussi bien marcher. Donc, il faut être un peu plus inventif. Il faut faire attention à quand on propose une téléconsultation. Si on ne connaît pas du tout un patient, ce n'est peut-être pas une super idée, la première fois, de les voir en téléconsultation. Sauf en cas vraiment d'émergence, parce que c'est plus dur d'établir une alliance thérapeutique, c'est plus dur d'établir les contextes, ils ne nous connaissent pas, on ne les connaît pas. Donc c'est préférable d'orienter la télémédecine plutôt pour un suivi et pour des consultations spécifiquement dédiées soit au bilan, aux évaluations et à la stimulation. Et au niveau des outils, il faut faire attention, comme je vous disais avant, à utiliser des logiciels qui nous permettent de garantir la protection des données, que ça ne soit pas accessible à tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui se branche au cours de la consultation pour entendre ce qu'on dit. Que ça soit, l'outil doit être adapté au type d'évaluation. Donc, si je veux faire des bilans neuropsychologiques, par exemple, il faut que l'outil me permette de faire. Si je veux faire un entretien psychologique, c'est un autre outil, probablement, que je vais utiliser. Et ce qui est important, c'est de tester les outils avant la téléconsultation pour éviter des couacs. Donc, côté patient et côté clinicien, qu'on s'assure que tout va bien. Et pendant la téléconsultation aussi, c'est important de faire plein de choses. Encore une fois, ça semblerait des banalités, mais c'est vrai que c'est des lignes guides qu'on commence à mettre en place pour les cliniciens même et à leur apprendre quand ils sont encore en études pour comment mener une téléconsultation en fait d'une manière efficace. Donc, il faut choisir un lieu où il n'y a personne qui peut nous écouter, sauf les personnes qui sont effectivement impliquées, comme les patients, les aidants. Tout ce que les patients décident qu'ils sont là, ils doivent être là, mais pas les autres. Dans la salle d'attente, ce n'est pas bien. Les médecins à écouter par d'autres, ce n'est pas idéal. Et aussi qu'il y a des bonnes conditions. Pour exemple, aller sur la terrasse est parfois agréable, mais s'il y a le bruit des voitures qui passent, la lumière qui nous empêche de voir l'écran parce qu'elle est trop forte, etc., ça ne va pas les faire. Donc, de se mettre dans un bon contexte, éliminer les sources de distraction possibles. Donc, on va mettre un signe sur la porte, ne pas déranger, clinicien et patient. Il faut avoir une sorte de aussi déroulé de l'entretien, c'est-à-dire vérifier bien que les piquements marchent, expliquer quoi faire au patient au cas où on déconnecte par hasard, est-ce qu'il doit nous rappeler, est-ce qu'il doit se rebrancher sur les mêmes liens, etc. Et s'assurer aussi qu'il a bien compris à la fin qu'est-ce qu'il faut faire. Parce qu'en consultation, il part avec une série de papiers qui sont rassurants parce qu'il reste là. Alors qu'on sait les consultations, tout est à l'oral, on peut envoyer des documents, mais il faut les télécharger, donc il faut bien s'assurer que les patients ont bien compris quoi faire. Et enfin, comme je vous disais, faire attention à bien montrer, faire preuve d'empathie avec ce qu'on peut, parce qu'on ne voit pas tous les corps, on voit juste les visages, on entend la voix, donc il faut essayer de mettre bien en valeur ces aspects, vu qu'il y a d'autres aspects typiquement présents dans la relation interpersonnelle, qui ne sont pas, ils passent pas aussi bien en téléconsultation. Par rapport au deuxième volet, donc, les chercheurs peuvent développer des nouveaux outils. Donc, nous, on était un peu précurseurs dans notre groupe, pas forcément moi, mais d'autres chercheurs dans les groupes. On avait commencé à développer depuis longtemps une plateforme spécifique au bilan neuropsychologique. Un des problèmes, c'est que les plateformes classiques, on prend même des logiciels qui existent, ne permettent pas de faire certaines choses. Vous savez que dans les bilans neuropsychologiques, souvent, on doit montrer des images, on demande aux gens, pour exemple, de nommer certains objets ou alors de mémoriser certaines figures, certaines images. Eh bien, la télémédecine en soi-même, elle n'est pas très adaptée. On voit bien les cliniciens, mais on ne voit pas tous les restes. Et donc, des chercheurs avaient développé ces outils spécifiques qui avaient une interface pour les cliniciens avec tous les tests et une interface pour les patients qui voyaient uniquement les cliniciens en face des tests et qui voyaient uniquement l'écran, donc comme vous voyez du bas, bien l'écran où on affichait, par exemple, là, c'est un test des mémorisations de différents types de portes. Donc, on a développé ces outils et comme je vous disais, l'étape suivante, c'est de les tester, savoir si ça marche pour des vrais ou pas. Et donc, on avait fait une étude en collaboration avec l'hôpital de Digne-les-Bains. Donc, on avait proposé à 50 seniors avec troubles cognitifs deux bilans neuropsychologiques, un classique en présentiel et l'autre à distance avec cette plateforme à 2 semaines de distance pour s'assurer qu'il n'y a pas de changement dû au temps. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? C'était une très bonne acceptabilité de la part des patients. Quelques problèmes techniques, comme c'est possible d'imaginer, mais en soi-même, une bonne acceptabilité. Et aussi une bonne concordance entre les résultats qu'on peut obtenir dans un bilan neuropsychologique classique en présentiel versus les résultats qu'on pouvait acquérir. Ce qui est plutôt prometteur. Il faut faire beaucoup plus de recherches pour valider tout ça, mais c'est prometteur quand même. Et ma dernière partie, toute courte, c'est vraiment sur qu'est-ce qu'on peut faire ensuite, qu'est-ce qu'on peut mettre en valeur en plus. La télémédecine classique, elle est déjà là, mais qu'est-ce qu'on peut ajouter, nous, comme chercheurs? Alors, au niveau de l'évaluation, en fait, la télémédecine, ça nous permet de récolter plein de données, de récolter, par exemple, les données vidéo, qu'eux, ils nous peuvent nous informer, en fait, sur plein de choses. Les expressions faciales, par exemple, nous parlent des émotions, nous parle de l'engagement de la personne, est-ce qu'elle est engagée dans la tâche, est-ce qu'elle est fatiguée, est-ce qu'elle est stressée, est-ce qu'elle est concentrée, etc. Et on a une autre chose, on peut enregistrer la voix et sortir à nouveau plein d'informations intéressantes, pas uniquement sur qu'est-ce que la personne dit, mais comment elle les dit aussi. Et je vais aller un peu plus loin pour vous montrer. Donc, pour exemple, pour les émotions, on sait que quand on exprime des émotions, on a des zones du visage qui s'activent préférentiellement pour une émotion plutôt que pour l'autre. Et ce qui est possible de faire, en fait, c'est d'entraîner des algorithmes à combiner ces différents muscles et à nous ressortir, à nous dire automatiquement comment la personne s'est sentie à ces moments-là. Et il y a des recherches, plus vraiment dans la recherche, par exemple, qu'on fait en ces moments à Coptec, qui regardent aussi, par exemple, si avec la direction du regard, on peut arriver à trouver des éléments qui nous parlent de l'alliance thérapeutique entre la personne et le thérapeute. Donc tout ça, ça peut être facilement, ça peut être envisagé d'être intégré un jour dans les plateformes de télémédecine en sorte d'ajouter des informations complémentaires en plus du contenu classique qu'on a déjà et presque plus fine de ce qu'on peut faire vis-à-vis avec un patient. Et pareil pour l'analyse automatique de la voix. En fait, dès que la personne parle, et ça, ça fait longtemps qu'on fait de la recherche dessus, et on peut extraire deux types d'informations. Alors, je vous disais, qu'est-ce que la personne nous raconte, toutes les caractéristiques linguistiques qui déjà nous parlent beaucoup, qu'est-ce que la personne nous dit, et ça, les cliniciens, d'habitude, l'évaluent déjà. Mais il y a toute une partie aussi des caractéristiques qu'on appelle paralinguistiques, pour exemple, les volumes des paroles, les taux des paroles, les nombres de pauses, l'intonation, la prosodie, qui peuvent être aussi automatiquement repérés par des algorithmes et nous donner des informations en plus. On collabore notamment avec une compagnie en Allemagne qui a montré déjà l'intérêt d'utiliser l'analyse automatique de la voix dans plein de pathologies, inclus la maladie d'Alzheimer, pour améliorer l'évaluation, par exemple, du langage, de la mémoire, des fonctions exécutives, mais aussi des dépressions, apathies et symptômes plutôt comportementaux. Et enfin, pour la prise en charge, pareil, on peut imaginer de combiner et d'utiliser en télémédecine des jeux sérieux, donc des jeux sur tablette, où le but, en fait, n'est pas uniquement d'amuser, même s'ils sont amusants, mais plutôt de faire de l'entraînement, que ce soit cognitif, physique ou de la formation. Donc, on a développé dans l'équipe plusieurs jeux. La Memo, pour exemple, vous avez les petites adresses. C'est une plateforme gratuite complètement, avec des mini-jeux pour simuler la mémoire, les capacités attentionnelles, etc. Et vous pouvez vous enregistrer gratuitement et suivre au cours du temps. Si vous jouez plus, vous allez améliorer plus, etc. Et on a aussi développé des exergames. En fait, c'est des jeux sérieux où on combine l'activité physique et l'activité cognitive. Là, pour exemple, c'est un jeu de bataille navale où on marche sur place pour faire avancer les sous-marins. Et après, on atterrit sur des îles et on fait des mini-tâches cognitives à nouveau pour stimuler les deux choses, mémoire et activité physique en même temps. Et on s'est demandé dernièrement si on peut les utiliser à distance ou pas. Et c'était dans le contexte d'une étude Alcotra qui s'appelait e-santé Silver Economy qu'on a fait en collaboration avec des Italiens. On a une chose en commun dans les régions transfrontalières, d'avoir beaucoup de personnes qui habitent dans les zones rurales et des montagnes. Donc, avoir les mêmes problèmes des déserts médicaux et d'accès, en fait, aux soins dans ces régions-là. Il y avait beaucoup d'acteurs, vous voyez aussi publics, en plus que les universités. Et on a testé, en fait, trois types. On a comparé l'usabilité des trois types de technologies, donc les jeux sérieux sur tablette, soit en présentiel, donc avec une neuropsychologue qui guidait dans les jeux avec tablette, soit à distance. La neuropsychologue, elle était connectée et la personne recevait une tablette et jouait chez elle, mais connectée avec la neuropsychologue. Et on a essayé d'autres choses aussi, la stimulation physique, vraiment de l'activité physique adaptée, à nouveau en présentiel et en distanciel, et des activités plutôt sociales, des groupes de parole, etc., ou des activités artistiques, comme vous voyez dans les photos, en présentiel et en distanciel. Alors, cette étude vient de terminer, donc je n'ai pas tous les résultats, mais juste à coup d'œil, déjà, qu'est-ce que je peux vous dire, c'est que la stimulation cognitive et l'activité physique semblent fonctionner plutôt bien à distance comme en présentiel. Et la chose qui n'a vraiment pas marché, c'est l'activité sociale en distanciel. C'est-à-dire que les gens, en fait, nous disent, si c'est pour le faire en distanciel, je ne fais pas. Et donc, on est arrivé à motiver une seule personne à se joindre en distanciel. Parce qu'elle était ultra motivée, elle était là tout le temps, mais les autres personnes nous ont dit « je préfère rien faire plutôt que me connecter à l'ordinateur et faire une activité que vous appelez sociale ». Et au niveau de l'acceptabilité, on peut dire qu'effectivement, il y a eu, là c'était des échelles en fait entre 1 et 10, où on demandait « donnez-nous votre niveau de satisfaction, de motivation à faire cette expérience ». Et vous voyez que toutes les barres sont très hautes. Donc, en fait, tous les patients, que c'était en distanciel en orange ou en présentiel en bleu, ils étaient plutôt satisfaits de l'expérience, ce qui fait envisager qu'effectivement, ça semble faisable, sauf pour les activités sociales, de les stimuler aussi en distanciel. Donc, en conclusion, qu'est-ce que je voulais vous apporter? C'est vous dire que la télémédecine et les nouvelles technologies en général semblent des outils prometteurs en complément à l'activité classique en présentiel. Donc, l'objectif, ce n'est pas d'éliminer les consultations classiques, ni les cliniciens, bien sûr, mais c'est des outils en plus. Il y a certains outils qui sont déjà intégrés dans la pratique clinique, donc la télémédecine en soi-même, et les jeux sérieux aussi, qui sont déjà parfois indiqués comme des solutions ou des prises en charge. D'autres outils sont encore dans la recherche, notamment toutes les analyses audio et vidéo, restent encore plutôt liées à des protocoles de recherche. Mais voilà, si on va revenir ici dans 5 ans, peut-être que la situation aura changé.
Merci, merci infiniment pour cette présentation. Très, très belle présentation et très claire. Merci pour tous ces efforts. On va repartir pour un petit jeu de questions-réponses. Hein. Toujours un micro dans la salle. Alors, le temps que ça se manifeste, je vais vous poser peut-être la première. Vous dites que ça ne va pas remplacer. Mais néanmoins, à un moment donné, de manière discrète, vous avez quand même glissé dans certains domaines. On peut peut-être faire encore mieux. Alors, je pense aux analyses du visage, des expressions, les sourires, la voix. Est-ce que, au niveau... J'espère que le docteur ne va pas se fâcher. Est-ce qu'au niveau du diagnostic, on pourrait pas, et notamment des maladies comme la maladie d'Alzheimer et ces maladies apparentées, on ne pourrait pas vraiment améliorer le diagnostic avec ces outils?
Alors, c'est ça qu'ils veulent
nous... Ne vous fâchez pas tout de suite, hein, docteur Mouton, ouais. Mais vous êtes...
Bah, nous, on fait de la recherche dessus, justement, parce qu'on pense qu'il y a quand même des éléments intéressants. L'analyse de la voix, notamment, elle est la plus avancée, apparemment, sur cette thématique. Et en ce moment, ils utilisent déjà des marqueurs de la voix pour aider à faire un sort de pré-screening des patients qui peuvent rentrer dans les fameuses études thérapeutiques et voir, en fait, pour, parce que ça serait des marqueurs précoces et non invasifs. Par rapport à la ponction lombaire que le docteur Mouton décrivait, c'est vrai qu'analyser la voix des personnes, c'est beaucoup moins invasif, c'est moins cher. On peut les faire même par téléphone. Donc, c'est clair que ça a des avantages. Et après, on est loin d'avoir la précision, par contre, qu'on a avec la ponction lombaire. Donc, la recherche va vraiment dans la direction de tester si, combien les deux choses vont bien ensemble et voir si un jour, on pourra remplacer peut-être la ponction lombaire avec des outils beaucoup moins invasifs.
Et des visages.
Mais on n'est pas encore là.
On n'en est pas... Et sur la voix, elle est comment? Juste parce qu'on est curieux, la voix, le visage, sur ces maladies neuroévolutives, vous qui êtes psychologue, c'est quoi l'effet marquant en termes de voix et de...
Alors, beaucoup de recherches sont faites, pas vraiment sur qu'est-ce qu'on raconte, mais sur, par exemple, la durée des pauses, le temps des paroles, la monotonie du discours. Moi, personnellement, on travaille beaucoup sur, par exemple, l'apathie et la dépression, donc des symptômes plutôt psychologiques. Et c'est vrai qu'on a bien montré, et les chercheurs ont bien montré en général, qu'il y a des marqueurs, pas spécifiques forcément à l'apathie, à la dépression, mais des différences entre une personne déprimée qui parle et une personne non déprimée qui parle. Les cliniciens l'entendent, et même vous, je pense, on l'entend peut-être un peu à l'oreille. Mais ces techniques nous permettent de le quantifier et de nous dire, cette personne, elle a fait beaucoup plus de pauses. Par exemple, dans une minute, de raconter un événement positif par rapport à une personne qui n'est pas déprimée. Là, ça nous permet de les quantifier.
Très bien. Allez-y, hein, parce que je m'en posais beaucoup, bien sûr, mais... non, pas de questions. Non, mais je vous en prie. C'est vrai que le sujet est quand même complexe. Vous nous projetez dans le futur parce qu'on a l'impression que c'est... Effectivement, c'est pas là, mais en même temps, c'est presque déjà là. Et je pensais à un point, quand on est face à un écran, c'est vrai qu'aujourd'hui on dit on est allé trop loin, mais est-ce que finalement, avec son médecin, je dirais on a envie de lui plaire, de le séduire, d'avoir... Est-ce que finalement le fait d'avoir un écran ne nous pousse pas dans une consultation presque plus vraie, plus authentique? Est-ce que, voilà, parce que le médecin, on a entretenu, on va presque lui faire plaisir quand il va nous dire face à face, est-ce que vous allez mieux? Est-ce que le fait de mettre un écran entre nous, ça peut... Je ne sais pas.
C'est ouais. Alors, personnellement, je pense que c'est plutôt l'opposé, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on parlait d'alliance thérapeutique, le fait que les cliniciens accueillent les patients avec lui quand ils arrivent, ils font une petite blague, etc., c'est important quand même pour favoriser qu'est-ce qui se passe ensuite.
Oui.
Donc, je pense que le fait de
on
mettre à l'écran...
On n'est pas plus honnête à distance?
Peut-être qu'on est plus honnête, effectivement, mais il faut pas non plus oublier l'aspect humain, de pas avoir l'impression de parler à un robot. Parfois, c'est vrai que c'est pratique, on pose la question à Google plutôt qu'au médecin parce que c'est moins gênant. Mais est-ce que c'est bien ou pas?
Oui, c'est ça. Est-ce que c'est un juste choix? Mais néanmoins, ce que vous présentez aujourd'hui avec la pénurie de médecins qu'on a, j'insiste, hein, excusez-moi, la pénurie de neurologues, ouais, on m'appelle tout le temps pour me demander si j'en connais un, etc. C'est quand même des outils qu'on devrait essayer rapidement. Je ne sais pas ce qu'en pense le docteur Mouton. Vous pouvez vous exprimer dessus, vous. Je vous en prie, prenez peut-être un micro. C'est intéressant de... Merci, c'est gentil, Philippe Robert.
Pour l'instant, la téléconsultation, il y a quand même un neurologue derrière. Hein.
Oui.
Donc, effectivement, nous, on le pratique et c'est un côté pratique. Et ça permet d'avoir d'autres informations, par exemple, parfois, hein, quand on fait de la téléconsultation, parce que c'est vrai qu'on est au domicile presque du patient, c'est presque ça. Avec lui. Voilà. Bon, après, on en est encore au stade, il faut encore le clinicien. Après, effectivement, il y a pas mal de recherches sur des nouveaux biomarqueurs. Et ce qui pourrait être intéressant, on parlait tout à l'heure peut-être de l'afflux de gens éventuellement. Oui. Pour du dépistage ou peut-être que voilà, ça peut être on peut faire des biomarqueurs d'abord pour un peu présélectionner des gens pour ensuite faire l'évaluation complète et la confirmation diagnostique. Donc enfin voilà, dans l'équipe il y a pas mal de recherches effectivement là-dessus.
Oui, vous n'êtes pas du tout
on travaille ensemble, on travaille ensemble.
Ouais, c'est ça.
Vous êtes une jeune neurologue et peut-être déjà vraiment éduqué à ça, donc c'est vrai que c'est très important. D'autres questions? Oui, monsieur, pardon.
Bonjour. Deux éléments. Vous parlez de jeux sérieux. C'est quoi les jeux non sérieux?
Parce qu'il y a des jeux pas sérieux, c'est ça.
Deuxième question, le rôle de l'IA pour vous, dans votre métier.
Alors, les jeux non sérieux, c'est les jeux vidéo qui n'ont pas été étudiés, en fait, pour faire quelque chose de bien. C'est-à-dire que tous les jeux qui jouent nos enfants ne sont pas forcément des jeux qui servent à quelque chose. C'est pour s'amuser. Et c'est très bien. S'amuser, c'est un objectif en soi-même, mais ce n'est pas des jeux thérapeutiques. Là, en fait, les jeux sérieux ont été, c'est là que je vous ai montré, on les a pensés avec des cliniciens et des ingénieurs pour que ça serve à quelque chose pour de vrai. Et en principe, on fait après des études pour montrer que c'est vraiment efficace. Je ne vous les ai pas montrés, mais on les a. En fait, donc on montre que c'est mieux que rien faire. Alors que les jeux typiques qui sortent, je ne suis pas persuadée que tous ils vont servir à un but plus haut, mais amuser, c'est déjà un but, donc occuper, etc. Et les rôles de l'intelligence artificielle, effectivement, il est fondamental dans tout ça, parce que vous voyez, dans qu'est-ce que je vous ai présenté, vous avez compris qu'on commence à récolter plein de données que les cliniciens n'ont pas du tout l'habitude de gérer. Donc, toutes ces données vocales, toutes ces données des informations vidéo, toutes les données, même les biomarqueurs croisés, avec des marqueurs de la voix, avec les marqueurs des résultats des jeux, etc. C'est très complexe. Alors, l'intelligence artificielle, dans tout ça, peut nous aider, par exemple, à faire les tri, à combiner les données dans des manières que les cliniciens, à la main, ne peuvent pas faire, on ne sait pas faire, et donc pour nous rendre un résultat global qui peut-être va faire ressortir des résultats qu'un test isolé à la fois ne pourrait pas faire ressortir. Donc, nous, on collabore beaucoup avec des chercheurs en intelligence artificielle. D'ailleurs, notre équipe, elle est cofondée par un chercheur de INRIA, Sophie Antipolis, qui travaille vraiment sur l'intelligence artificielle. Et donc, on est complètement persuadé que dès qu'on commence à ajouter trop de choses, il faut de l'aide à analyser les données qu'on récolte, en fait.
Donc, dans votre domaine, il ne faut pas avoir peur de l'IA?
Ah oui.
C'était un peu le sens, peut-être, de la question. Là, elle peut être un vrai outil. Merci infiniment.
Merci à vous pour l'écoute.
C'était une présentation passionnante encore. Merci.